France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est avec délicatesse et subtilité, hein, voilà, qui se sont glissés dans leur costume de commentateurs de l'actualité, l'œil vif, le poil soyeux, ils sont prêts à débattre. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Aziz Seni, bonsoir.
Bonsoir.
Entrepreneur engagé, Marion Mourgue, bonsoir, du Figaro. L'entrepreneur et président de la transition, Xavier Alberti, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et également Jonathan Boucher-Petersen, bonsoir, de Libération. Et ce soir, on parlera de Laurent Wauquiez, combien de divisions SNCF, la colère continue. On parlera également de l'Europe au défi d'Aquarius. Mais juste avant, nous recevons Dorian Malovic. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes journaliste à La Croix, écrivain et auteur de ce livre avec Juliette Mourillo, La Corée du Nord en 100 questions aux éditions Talendier. Alors, avec vous, bien sûr, nous allons revenir sur ce cliché historique, la poignée de main entre Kim Jong-un et Donald Trump, parce qu'il se passe des choses quand on est enfoui dans nos draps, nous dormons du sommeil du juste, et Singapour était cette nuit le centre du monde. Alors bien sûr, il y a les à côté, comme Ivanka Trump tweetant un proverbe chinois qui n'existe pas, ou l'ex-basketteur Dennis Rodman, ami de Kim et Donald, qui pleure sur CNN, et puis le président américain qui monte sa limousine blindée au leader nord-coréen, limite celui n'a pas fait essayer le klaxon italien qui vient d'installer. Mais bref, le principal, c'est cette photo, cet entretien de 45 minutes, et ce tête-à-tête avec un accord fait par les deux hommes. Et maintenant, alors Dorian Malovic, est-ce que c'est vraiment le début de quelque chose?
Ben, écoutez, il faut quand même réaliser la dimension de l'événement. C'est-à-dire que quand vous avez un pays avec lequel vous êtes en guerre depuis plus de 70 ans, que l'année dernière vous étiez entre les invectives et les menaces de missiles de guerre nucléaire ou conventionnelle, et qu'en 6 mois, on arrive à un sommet où le leader nord-coréen, taxé de dictateur, de leader de la dernière dictature stalinienne de la planète il y a encore 6 mois, s'est finalement métamorphosé en chef d'État légitimé par Trump et qui lui serre la main aujourd'hui. On peut dire d'abord que Kim Jong-un a gagné. D'une part, c'est incontestable. Il a réussi à se hisser d'égal à égal avec l'ennemi héréditaire et la plus grande puissance mondiale. Ça, c'est sûr que c'est gagné. Et il faut savoir que quand il va rentrer chez lui, il ne faut jamais oublier la politique intérieure nord-coréenne. On a tendance un peu à
l'ignorer. Il y a peu d'experts.
À l'oublier, c'est que Kim Jong-un ne fonctionne pas seulement par rapport au monde entier, mais surtout par rapport à son opinion. Imaginez que revenir là-bas en disant « Voilà 40 ans que je vous demande, que Kim demande des sacrifices à tout le monde. Il y a eu une famine, c'est terminé, mais tout le monde quand même a encore des difficultés. Mais nous avons gagné, nous avons la victoire, puisque nous avons réussi à être traité d'égal à égal avec Donald Trump qui est venu et qui m'a serré la main. »
Oui, mais Dorian Malovic, il y a quelque chose quand même qui paraît terrible quand même dans cette histoire, c'est que, vous l'avez dit, c'est un dictateur, Kim Jong-un. Est-ce que ça le légitime totalement? On sait que c'est quand même un régime d'une répression féroce, avec des goulags, des prisons, aucune représentation politique.
Oui, absolument.
Donc ça le légitime en fait.
Ah bah écoutez, quand vous voyez les drapeaux nord-coréens et américains côte à côte, la poignée de main, il y en a eu 5 poignées de main aujourd'hui. Hein. Il y a eu même une main dans le dos, deux côtés, vous avez eu des sourires, c'était très très mis en scène, c'était très théâtral, tout ça a été voulu, mais de part et d'autre, parce que Trump aussi voulait son sommet. C'est lui qui a décidé, en fait, c'était son affaire, son dossier, le nord-coréen, je vais régler le problème. Et lui va pouvoir se targuer en rentrant d'avoir gagné aussi, en disant, regardez mes 4 prédécesseurs, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien voulu faire, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Moi, Donald Trump, dont on connaît l'ego démesuré, et moi je vais régler le problème, et regardez, j'ai commencé à le rencontrer, personne ne voulait démarrer quelque chose. Après, si je peux me permettre, le document...
On va en parler. On va en parler dans un instant. Juste une chose, juste votre point de vue quand vous avez vu cette image, Xavier Alberti, vous, cette poignée de main, ces deux hommes ensemble, Donald Trump, Kim Jong-un, qui en effet, on se souvient quand même de l'apostrophe de Donald Trump à l'égard de Kim Jong-un à la tribune de l'ONU, ce fameux Rocketman. Qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous avez vu ça?
C'est de la com.
Ouais.
Que ça fondera peut-être quelque chose, parce qu'on est dans cette époque un peu folle, pas à l'abri de voir émerger... voir pousser la rose sur un tas de fumier, mais je crois que c'est que de la com, et je pense que effectivement il y a pas très longtemps on était au bord soi-disant d'un affrontement. Je crois qu'on pourrait y revenir d'ici 15 jours sans que ça pose de problème à personne, ni à l'un ni à l'autre d'ailleurs. Je pense qu'effectivement, ils ont fait ça pour de mauvaises raisons. Je pense aussi que la diplomatie, ça ne se voit jamais. Et que quand ça se voit comme ça, c'est plus de diplomatie, c'est de la com.
Ouais, Jonathan Boucher-Petersen.
Non, mais c'est vrai qu'on est partagé. C'est difficile de ne pas dire que c'est historique parce que de fait, ça l'est. En même temps, vu les protagonistes, on a tendance à se dire que ça ne peut pas se passer normalement. Enfin, ça ne peut pas juste se passer comme ça. Peut-être que si. Enfin, c'est ça qui serait fou. Après, on n'est pas dans la tête ni de l'un ni de l'autre. Ça a l'air d'être des univers assez complexes et assez compliqués. Qu'est-ce qu'ils se disent, qu'ils jouent à l'échelle de l'histoire? Qu'est-ce qu'ils se jouent à l'échelle de leur ego? Voilà, ça reste mystérieux. Tout ça se met en scène, effectivement. Ça reste de chefs d'État qui jouent leur opinion publique en premier. Hein. C'est Korea First, America First, ça on n'en doute pas. Mais il n'empêche, si.
Marion Maurieux.
Mais c'est surtout que ça contraste avec le G7 qui était il y a quelques jours seulement. Et on a vraiment l'impression que désormais, les relations internationales qui étaient très multilatérales depuis 45, c'est fini. Et on est rentré dans une phase de diplomatie bilatérale avec justement les intérêts nationaux qui priment avant.
Et la cacophonie européenne.
C'est fini pour vous, là. Alors ça marque l'histoire en effet, mais c'est vrai qu'on se demande, on va parler de l'accord dans un instant, voilà ce qu'il y a de plus.
Bon, en voyant ces images, c'est à Vladimir Poutine et au président chinois que je pensais. Je me demandais ce qu'eux pensaient en voyant cette image. Je mettais aussi en corrélation avec ce qui s'est passé au G7, cette façon de torpiller le G7 et puis de l'autre côté de réchauffer un petit peu la planète de l'autre côté, réchauffer au sens où moi j'ai aussi en esprit les fameux deux boutons, vous vous souvenez?
Ouais, bien sûr.
J'ai un bouton plus grand que le mien, je ne sais pas s'ils ont parlé de leurs boutons et se sont comparés les boutons quand ils se sont vus, mais c'est à ça que je pensais. Et finalement, cette image, elle montre quoi? C'est que tous les discours sur les démocraties, les droits de l'homme, etc., tout ça, c'est du pipeau. La réalité, c'est que la politique réelle, la réelle politique, c'est carrément autre chose. Et je suis bien triste qu'on donne une tribune aussi forte à un homme aussi dangereux.
Voilà. Ouais, Kim Jong-un, on va en parler. On va en parler dans un instant de la suite, justement, et de cet accord, notamment l'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Avec la fin de la prise d'otages en plein cœur de Paris, dans le 10e arrondissement, peu avant 20h, la préfecture annonce que les trois otages sont sains et saufs. Le forcené a été interpellé. Il retenait trois personnes dans cette société de communication de la rue des Petites Écuries pour un motif qui n'est pas encore clairement établi. La France salue une première étape après le sommet Trump-Kim Jong-un. Depuis Singapour, les États-Unis et la Corée du Nord sont donc arrivés à une déclaration commune. Elle appelle Pyongyang à respecter ses obligations internationales concernant ses programmes nucléaires et balistiques. 17 raffineries en France restent bloquées ce soir par les agriculteurs et le blocus continue, selon les propres termes de la présidente de la FNSEA. Pas d'avancée concrète avec le ministère sur leurs revendications qui portent sur des importations agricoles et en tête l'huile de palme. Le gouvernement veut céder des titres de la Française des Jeux, Aéroport de Paris ou encore Engie, une annonce ce soir de Bercy avant la présentation lundi prochain de la loi Pacte. Le texte ne précise pas le montant des sommes que l'État entend récupérer à travers ces cessions pour alimenter ensuite un fonds à destination de l'innovation. Et puis les Bleus de 98 remettent le maillot avec un match de foot de gala dès 21h à la U Arena de Nanterre, aux portes de Paris. 20 ans après la Coupe du Monde, cette sélection des Bleus va rencontrer des joueurs internationaux et sur le banc des entraîneurs, il y a Aimé Jacquet. Et oui, comme en 98.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de cette poignée de main historique qui a eu lieu cette nuit à Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un. Avec nous, Dorian Malovic, vous avez écrit Le Monde selon Kim Jong-un aux éditions Robert Laffont. Alors juste une question à propos de cet accord signé, on a un peu mal à comprendre ce texte parce que Kim Jong-un lui dit on va en effet faire un effort sur le nucléaire, mais il y aura aucune contrainte, ça sera pas vérifiable, alors que Donald Trump dit au contraire on va vérifier.
Alors, d'abord, c'est pas un accord.
D'accord.
Ce qui est quand même très, c'est un communiqué. C'est-à-dire que il est absolument pas contraignant. C'est une feuille de papier. C'est un feuillet, le document. Regardez l'image. C'est un feuillet signé par les deux. Les signatures sont presque plus grandes que le texte.
Oui.
Et à l'intérieur, vous avez, à la limite, quatre options, mais du très général, très global, absolument non ciblée, non calendrier, pas de calendrier, pas de précision. Alors, en même temps, on peut avoir deux lectures sur ce document. Il y en a qui vont vous dire, écoutez, de toute façon, c'est rien, c'est un morceau de papier, ça n'engage personne. Et puis, de toute façon, même si ça engageait, on a vu que Trump ne respectait rien. Et puis, par ailleurs, Kim Jong-un non plus, il a jamais respecté sa parole. Donc, de toute façon, ça ne servira à rien. D'un autre côté, il faut quand même se rappeler que ce sommet a été organisé en un temps record. C'est-à-dire, en janvier, on lance, le Nord lance sa première offensive diplomatique avec le Sud. Le 8 mars, Trump dit « Ok, on y va ». Eh bien, on prépare pas un sommet avec un dossier nucléaire massif, si j'ose dire, comme ça, en 2 mois. Ouais. C'est de l'improvisation, c'est à l'arrache, on arrive à négocier, ce qui s'est fait en coulisses depuis 15 jours. Mais là, on a trouvé le minimum, je dirais, sur lequel on puisse commencer à discuter sur les sujets. Mais il n'y a rien, en effet, sur lequel on puisse s'appuyer. Donc, la deuxième lecture, ou les deux lectures, c'est, de toute façon, ça sert à rien, ça marchera pas. Ou l'autre, c'est ce que mon voisin disait, c'était que, eh ben, peut-être que, si, à partir de là, la diplomatie est totalement renversée, généralement, quand on arrive à un sommet comme ça, les dossiers sont ficelés, vous avez 150 Alors, pages, 50 articles, ben là, c'est l'inverse.
Une dernière chose, dans la Malouie, forcément, quand on voit cette poignée de main, on pense aux autres, c'est-à-dire aux Sud-Coréens, comment ça a été ressenti là-bas?
Absolument ravi. Le président nord-coréen, sud-coréen Moon Jae-in a dit qu'il était en larmes devant son téléviseur.
Ça veut dire que c'est le début de la fin de la guerre de Corée ou pas?
Écoutez, c'est pas précisé même dans le communiqué, mais quelque part, un mouvement, une dynamique est lancée, mais pas par Trump. Les deux Corées, la Chine et la Russie, sont derrière la Corée du Nord. Et Trump, finalement, est là. Et ça va être difficile pour lui, là, de tourner le dos. Ouais. Parce que la politique de pression maximale et de sanctions de l'ONU, ça ne marchera plus.
Merci beaucoup, en tout cas, Dorian Malovi. Je rappelle votre livre écrit avec Juliette Morillo, Le monde selon Kim Jong-un, guerre ou paix. J'ai mal dit tout à l'heure, excusez-moi, j'avais 10 000 questions, je ne sais pas pourquoi, voilà, je m'étais un peu emballé là-dessus. Donc, Le monde selon Kim Jong-un, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'être passé ce soir aux informés de France Info. Allez, nous, on va revenir en Europe, puisque pendant quelques heures ce matin, on a eu l'impression que la Corse était un pays ami de la France. Et puis, tout est rentré dans l'ordre. En cause, la volonté de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, d'accueillir l'Aquarius, navire transportant 629 migrants dans un des ports de l'île. Alors depuis ce week-end et le refus de l'Italie et de Malte de venir en aide au bateau de l'ONG, le silence de la France s'entendait lourdement. Les heures avançaient et rien venant de l'Élysée, ni pour ni contre. Le gouvernement semblait comme paralysé par le fait d'apporter une réponse. Alors la droite se divisait sur la question, la gauche dénonçait l'absence de parole de l'exécutif et même au sein de La République En Marche, on s'étonnait d'une absence d'action. Ainsi, le vice-président de l'Assemblée nationale, le député macroniste Hugues Ranson, a publié un message sur Twitter, je cite « J'aurais aimé que la France puisse être dans la droite tradition » qui est la sienne d'accueil et de réponse. Et puis vers 13h, le silence présidentiel sur le sujet s'est brisé. Il fallait juste le temps à Emmanuel Macron d'ajuster son sextant. Et maintenant, il faut attendre le Premier ministre, Édouard Philippe.
Le gouvernement italien a choisi de ne pas respecter des obligations internationales qui s'imposent à elle en matière de sécurité des personnes. Je pointe ce non-respect. L'Espagne a indiqué qu'elle était prête à accueillir ce bateau. Nous sommes évidemment prêts à aider les autorités espagnoles pour accueillir et pour analyser la situation de ceux qui, sur ce bateau, pourraient vouloir bénéficier notamment du statut de réfugié.
Le Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. Jonathan Boucher-Petersen, pourquoi tout ce temps avant de réagir de la part de
l'exécutif? Non, mais je pense qu'effectivement, la tétanie est le sujet compliqué. Ouais. Visiblement, le message qu'Emmanuel Macron a fait passer ce matin au Conseil des ministres, c'est que son premier réflexe humaniste, c'est évidemment d'accueillir, mais qu'en responsabilité, il fallait qu'il trouve un autre discours. Bon, ce qui est sûr, c'est que le silence, vous l'avez dit, il a été assourdissant. Ouais. Donc après, c'est pas tellement l'enjeu, mais c'est assez révélateur. C'est-à-dire que ça fait très longtemps, et c'est aussi pour ça que Salvini est au pouvoir aujourd'hui en Italie, qu'on se renvoie la balle, qu'on regarde ailleurs, que chacun assume pas. Il y a eu ce débat sur les quotas à une époque. Enfin, quand on regarde les chiffres, Euractiv a publié des statistiques encore aujourd'hui pour éclairer le débat. C'est sidérant d'entendre Benjamin Griveaux dire la France a pris sa part. Enfin, la France a pris sa part moins qu'elle aurait dû le faire. Enfin, pour le coup, c'est un constat qui paraît tellement évident. Donc après, ça peut s'assumer, mais c'est-à-dire, être dans la fake news à ce point-là, c'est un tout petit peu inquiétant. Après, ce qu'est les Corses, ils ont joué un bon coup. Enfin, clairement, un bon coup pour pas cher, parce que c'était venez faire escale dans notre port. Hein. C'est pas la Corse en tant que territoire est prêt à accueillir. On sait qu'en Corse, c'est la présence des migrants et l'accueil fait aux migrants est pas toujours un sujet facile, loin de là. Donc voilà. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a un côté ping-pong. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce bateau qui est au milieu. Chacun entre eux prend un peu la pause, a déjà des élans d'humanité, fait la politique. Enfin, même Pedro Sanchez, d'une certaine manière, on peut pas ne pas se dire que dans son geste, il y a aussi quelque chose de politique. Tant mieux que ça pousse à faire ça. Ce qui est un peu gênant, c'est qu'au milieu, il y a voilà, 629 personnes, des femmes, des enfants qui sont brinque-ballés et que ça va se reproduire.
Xavier Alberti, en effet, là, ça a fait... hier, on s'étonnait hein, du peu de réaction du gouvernement. Est-ce qu'il y a une petite gêne aussi par rapport à une précédente loi, asile immigration, par rapport aux migrants, par rapport à l'accueil? Est-ce qu'il y a eu cette gêne-là, à un moment, qui a pu intervenir dans la tête de l'exécutif?
Il y a probablement quelque chose, effectivement, qui a joué politiquement. Moi, j'ai relu, je suis allé rechercher dans le discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès à Versailles le 3 juillet, une phrase que j'avais trouvée magnifique, et je trouve que c'est la dernière phrase du discours, où il dit « Nous tiendrons la promesse de faire à l'homme un pays digne de lui ». Je pense que, sans rentrer dans la problématique de ce que peuvent représenter les courants migratoires et la gestion des courants migratoires dans les 10, 20, 30 ans qui viennent. Un bateau avec 600 hommes, femmes et enfants au milieu de la Méditerranée, c'est le moment de faire à l'homme un pays digne de lui. Voilà. Et donc le réflexe, avant toute autre chose, c'est dire on accueille. Oui. Voilà. Après, peut-être qu'on n'est pas le port le plus proche, peut-être qu'il y avait quelqu'un de plus près, peut-être que, mais il n'y a pas de politique à avoir. Donc pour moi, la première chose, c'est ça. J'ai une deuxième chose à ajouter. C'est que c'est symptomatique. derrière juste ce silence de quelques heures, il y a le brouhaha européen. Et ce qui est en train de se jouer aujourd'hui en Europe est catastrophique.
Alors on va en parler de ça.
C'est cataclysmique quand même qu'on en soit aujourd'hui à avoir si peu de cohérence et de cohésion européenne sur un sujet comme celui-là.
Il y a deux pays qui se sont entendus pour refuser, en tout cas, hein, qui étaient Malte en effet et l'Italie. Marion Mourgue.
On voit que depuis hier, l'exécutif était quand même sous pression d'une partie de sa majorité. Et c'est là où on voit se redessiner la gauche et la droite au sein même de En Marche, avec des visions et des cultures très différentes. Et à un moment, on sent qu'Édouard Philippe et Emmanuel Macron ont été pris aussi par les députés En Marche venus de la gauche qui leur disaient « Non, mais il faut réagir, il faut qu'il y ait une expression en public. »
Mais ce qui est intéressant, c'est la personne dont j'ai parlé, c'est Hugranson qui, lui, ne vient pas de la gauche. Justement.
Non, mais il était proche de Jacques Chirac. Et voilà, donc, oui, c'est une droite sociale aussi. Et on voit aussi que la question migratoire sera centrale, notamment au moment des européennes, puisque c'est les prochaines élections, et que là encore, ça risque de diviser les partis et la majorité.
Eh bien, justement, de ça, on va en parler dans un instant, puisque Giuseppe Conte, le nouveau président du Conseil italien, sera reçu vendredi par Emmanuel Macron. On va parler de ça dans un instant. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
4 heures de prise d'otage pour 3 personnes retenues par un forcené dans le 10e arrondissement de Paris. Mais les forces de l'ordre ont donné l'assaut vers 19h30 et interpellé l'homme qui les retenait dans une entreprise de communication de la rue des Petites Écuries. Ses motivations restent encore à établir. Le parquet de Versailles ouvre une enquête préliminaire pour blessures involontaires. Les suites de la coulée de boue ce matin et l'accident du RERB entre Saint-Rémy-les-Chevreuses et Courcelles-sur-Yvette. 3 des 7 blessés restent hospitalisés ce soir. Gérard Collomb invite ses homologues italiens et espagnols à Paris dans les prochains jours. Le ministre de l'Intérieur veut évoquer avec ses voisins la situation des 629 réfugiés entassés sur le bateau Aquarius. Ce matin, Emmanuel Macron dénonçait le cynisme et l'irresponsabilité de l'Italie dans ce refus à les accueillir. La CFDT Cheminots appelle à suspendre la grève pour les épreuves du bac concernant les TER et RER les 18 et 22 juin. En attendant, demain, ce sera le 30e jour du conflit à la SNCF, avec entre autres un TER sur 2 et 2 TGV sur 3. Et puis je vais bien, c'est un tweet signé ce soir Kylian Mbappé depuis la Russie. Il a reçu cet après-midi un coup à la cheville gauche par Adil Rami. Ce soir, l'attaquant tient des propos rassurants à 4 jours du premier match des Bleus face à l'Australie.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info depuis hier, c'est un nom qui revient hein, sur le devant de l'actualité, le mot Aquarius, du nom de ce bateau avec 629 migrants à bord, rejetés par l'Italie et Malte, qui devrait accoster dans le port de Valence en Espagne et qui a provoqué un début de crise politique en France, puisque désormais, eh bien, la décision ou la non-décision d'Emmanuel Macron eh bien, est dans le viseur de l'extrême droite française et de la droite également, puisque le Rassemblement National comme Nicolas Dupont-Aignan salue la décision italienne et ils enfoncent le clou. On va écouter Julien Sanchez, il est porte-parole du Rassemblement National.
Matteo Salvini, nouveau ministre de l'Intérieur, applique tout simplement son programme et applique le programme pour lequel les Italiens lui ont fait confiance, à lui et à son mouvement. Je crois que c'est nous qui avons tort de ne pas faire la même chose et de ne pas refuser ces afflux de migrants qui constituent une menace et un danger nouveau pour le pays.
Voilà, Julien Sanchez, porte-parole du Rassemblement National. Adissini, quand on entend ça, on voit bien qu'aujourd'hui, l'attitude du ministre de l'Intérieur italien, c'est une sorte de laboratoire pour, en effet, certains populistes en Europe.
Populisme à partir duquel les décisions sont prises, parce que le grand silence de nos dirigeants, c'est essentiellement lié au fait de est-ce que je vais faire gagner un peu plus de voix à tous ces conservateurs, ultra-conservateurs et à ces extrémistes ou pas? On délaisse un peu cette notion d'humanisme dont parlait tout à l'heure Xavier Albertini. C'est cette vision de on intervient tout de suite au nom de l'humanisme et on sauve des gens, ou est-ce qu'on est sur nos petits calculs? Maintenant, effectivement, on peut parler des politiques migratoires, on peut pas accueillir toute la misère du monde, etc., etc., tout ce qui a toujours été dit. Mais quand on a des femmes et des enfants au milieu d'une mer, on se pose plus de questions. On y va, on les sort et on gère après. J'ai même envie de poser une autre question. Comment ce bateau a-t-il pu partir avant? On constate aujourd'hui. Mais est-ce que nos services de renseignement, est-ce que les services de renseignement européens, est-ce que qui était au courant du départ de ce bateau? Parce qu'on gère encore une fois l'urgence, mais est-ce qu'on ne pouvait pas anticiper aussi ce départ-là?
Avec Xavier Dati, quand même, quand on entend hier aussi le Conseil européen qui dit « Oh là là, oui, il faut régler cette situation rapidement », on se dit aussi l'Italie ou un pays comme la Grèce sont confrontés à ça depuis très très longtemps. Et ils ont souvent appelé l'Europe au secours, qui n'est pas venu. Et donc maintenant, il faut régler ça.
Ça dépend.
Enfin, elle est venue. Mais
L'Europe, parce que l'Europe, ça n'existe pas. L'Europe, c'est nous. L'Europe, c'est ce que nous en faisons. Il n'y a pas. C'est pas quelque chose qui.
En l'occurrence, c'était Frontex, essentiellement l'Europe. Oui, c'est ça qui pose ce problème.
Bien sûr. Mais Frontex existe parce qu'on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'on a fait silence un peu trop longtemps sur ce sujet-là qu'on ne fait rien par ailleurs. On participe à Frontex. Le vrai sujet de la gestion des politiques migratoires, c'est effectivement ce qu'on fait à la source. Et ensuite, il y a l'urgence et la gestion de l'urgence. Le problème, c'est que sur ce sujet-là aujourd'hui, l'Italie est rentrée maintenant dans une posture politique qui correspond à son vote et qui fait qu'on va se retrouver confronté à cette situation souvent. Et elle renvoie effectivement l'Europe à un projet politique qu'elle sera capable ou pas de mettre en place et qui signera ou pas sa mort. Parce que si on continue comme ça, l'Union européenne telle qu'on la connaît ne survivra pas à la mise en place de modèles politiques qui ne communiqueront plus les uns avec les autres.
Jonathan Boucher-Petersen.
Ce qui est fou, c'est qu'on voit bien que Salvini, donc le ministre de l'Intérieur de la Ligue du Nord, enfin, l'élément donc, le plus radical, celui qui veut mettre tous les étrangers en dehors de l'Italie, il le fait à un moment qui est symptomatique. C'est-à-dire qu'on a connu effectivement la période où l'Italie était vraiment confrontée à des vagues très importantes. Le chiffre de 700 000, il est cumulé sur plusieurs années. Mais là, les chiffres qui sont sortis ce matin, l'Italie est revenue au niveau d'avant 2015. Donc en termes de pression dans la société, de réalité, ou dans les JT, dans la presse régionale, cette réalité dans l'Italie, elle est beaucoup moins forte aujourd'hui qu'il y a quelques années. Mais c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a quelques années, quand ils ont crié en disant on peut pas gérer tout seul, et que tout le monde quand même, pour des raisons effectivement d'opinion publique nationale, s'est dit bah voilà, chacun son lot quoi. Hein, vous êtes en première ligne, c'est comme ça. Il se trouve qu'en face de la Libye, oui, c'est comme ça que ça se joue. Aujourd'hui, on a ce genre de gens qui vont être des bombes à fragmentation au sein de l'Europe. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, il y a les cartes qui sont régulièrement publiées, où on voit cet axe de la première frontière de l'Europe. Oui. La Grèce, c'est un tout petit peu différent, mais la Hongrie, enfin, tous ces pays-là. Et c'est des endroits où il n'y a pas de migrants aujourd'hui. Et où pourtant, c'est la thématique principale. Et où pourtant, c'est la peur du migrant, le non au migrant. Il n'y a pas de migrants dans ces pays-là. Il y a des fils de fer, il y a des barrières, il y a des murs.
Il y a eu la route, en effet, de Syrie qui aujourd'hui est déviée. Mais Marion Mauque, en effet, on le voit aujourd'hui politiquement. Vous parliez des élections européennes tout à l'heure. C'est quelque chose une thématique qui va revenir vraiment d'une manière forte. On ne parle que de ça. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça influence les votes. On se souvient en Allemagne où 90 députés de l'AFD qui rentrent dans un pays qui a accueilli 1 million de migrants. moment. On peut imaginer, quand Gérard Collomb dit aujourd'hui, si on ne fait pas par exemple une loi asile et immigration, c'est demain voilà, le Front National qui est au pouvoir. C'est un épouvantail qu'on agit depuis longtemps, ça. Manuel Valls aussi en parlait déjà.
C'est une question centrale puisque de toute façon les flux se sont multipliés. Donc ça devient une préoccupation pour les gouvernements, ça devient une inquiétude pour certaines populations aussi. Et cette semaine, Emmanuel Macron va rencontrer à Paris le président du Conseil italien. Donc déjà ça s'invite dans le débat politique intérieur et Gérard Collomb a demandé une rencontre avec ses homologues italiens et espagnols.
Il y a un Conseil européen à la fin du mois là-dessus.
Exactement. C'est ça, ouais. Et donc c'est de plus en plus central et comme les européennes arrivent vite et que chaque parti les prépare, ce sera...
Ça risque d'être une thématique qu'on retrouvera en
effet. Animée.
Allez, dans un instant, nous allons parler nous de la SNCF hein, puisque demain il y a le texte final qui pourrait être voté. On parlera également de Laurent Wauquiez qui a des petits soucis avec sa numéro 2 en ce moment. Voilà la suite du programme pour les informer de France Info.
La première fois qu'on lui a proposé le badge télépéage Vinci Autoroute, Vincent a dit « Ah ça non, trop peu pour moi, je n'aime pas m'engager, puis je prends pas l'autoroute assez régulièrement. » Ce à quoi on lui a répondu « Avec le badge Vinci Autoroute et la formule temps libre, c'est sans engagement et les mois où vous ne roulez pas, eh bien, vous ne payez pas. » Et quand vous payez, le paiement est différé jusqu'à 45 jours. Alors Vincent a eu cette phrase historique, il a dit « Si c'est comme ça, je veux bien. »
Vinci Autoroute, roulons autrement. Disponible en espace client sur vinciautoroute.com.
Votre mère n'est plus tout à fait autonome. Elle a besoin d'aide, de soins. Elle a besoin de vous, et vous, vous avez besoin d'un appui. Alors à qui vous raccrochez? La branche de l'aide à domicile soutient déjà 1,6 million de personnes. Faites appel à nos intervenants. La branche de l'aide à domicile, c'est le premier employeur dans le secteur des services à domicile avec 226 000 professionnels salariés engagés au sein de structures associatives. Plus la vie est fragile, plus notre engagement doit être solide. Pour nous soutenir, rendez-vous sur notre page Facebook. Aide à domicile, la branche.
France Info Météo, avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Restez prudents ce soir, des crues sont en cours sur le nord-ouest et le sud-ouest. Il pleut encore beaucoup sur le sud-ouest, surtout au sud de la Garonne. Attention aussi aux orages sur le centre-est. Ils peuvent être forts avec des pluies intenses, surtout autour de la vallée du Rhône. Ils vont persister jusqu'en milieu de nuit. Demain matin, on gardera des pluies sur les régions proches des Pyrénées. Elles deviendront plus irrégulières l'après-midi. Entre le massif central, les Alpes, la Franche-Comté, quelques averses, essentiellement sur le relief l'après-midi, parfois avec un coup de tonnerre. Ce sera le cas aussi en Corse, du Roussillon à la basse vallée du Rhône, de belles éclaircies, du vent jusqu'à 80-90 km à l'heure. Ailleurs, on retrouvera enfin un temps calme, sec. Il faudra composer avec la grisaille le matin, mais le soleil reprendra l'avantage, surtout en bord de mer. On pourrait avoir une petite averse dans l'intérieur de la Bretagne. Il fera 19 degrés à Deauville, 21 à Lille, Paris, Strasbourg, 24 à Bordeaux et Lyon et 27 à Montpellier.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Julie Smul, bonsoir.
Bonsoir. Les deux otages libérés, sains et saufs, le forcené interpellé. Le calme revient ce soir dans le 10e arrondissement de Paris. Une prise d'otage a eu lieu tout à l'heure dans les locaux d'une régie publicitaire rue des Petites Écuries. Une rue où tout le monde est resté confiné sur son lieu de travail pendant plusieurs heures. Nicolas, par exemple, qui a été autorisé à rentrer chez lui vers 18h.
Les policiers sont arrivés et c'est ça qui nous a dit bah, y a quelque chose qui se passe et c'est impressionnant quoi. Il y a des collègues qui nous ont dit bon bah ils nous ont dit de ne pas sortir et puis bah finalement c'est aussi une question de bon sens, c'est-à-dire qu'on s'est éloigné des fenêtres, on savait pas trop ce qui se passait. Puis au fur et à mesure, oui, on a vu que ça avançait et c'est pas terminé. Ils nous ont évacués en nous disant bah, qu'on allait pouvoir sortir tous ensemble, 10 par 10. Ils nous ont escortés tranquillement jusqu'à la sortie. Il n'y a pas eu de panique ni de peur parmi les gens qui étaient dans la rue. Il y en a qui sont plus ou moins dépêchés, mais ça va, franchement. Non, c'est plus au tout départ, lorsqu'on a vu les policiers dans la rue débarquer avec les gens qui se cachaient, où là, on ne savait pas ce qui se passait. Où là, bon, forcément, on peut se poser des questions. Et oui, là, franchement, on flippe un peu.
Un témoignage recueilli par Thomas Schoner pour France Info. Alors que la réforme de la SNCF doit être adoptée demain par l'Assemblée, puis jeudi par le Sénat, la CGT Cheminot appelle les autres syndicats à faire durer le mouvement après le 28 juin. La CFDT, elle, demande à ce que les TER et les RER puissent circuler pendant les épreuves du bac. Demain, nouvelle journée de perturbation, la 30e depuis le début du mouvement. La moitié des TER et des intercités, 2 TGV sur 3 et 3 Transiliens sur 5 prévus en circulation. La 13, rouverte aux voitures dans les deux sens à partir de minuit tout à l'heure. L'autoroute entre Paris et la Normandie, coupée car inondée aujourd'hui pendant plusieurs heures. Les orages qui ont provoqué également ce matin le déraillement d'une rame du RER B dans les Yvelines. Accident qui n'a fait que 3 blessés légers. Le parquet de Versailles ouvre ce soir une enquête pour blessures involontaires. Il reste 18 départements en orange pour des orages, des pluies et des risques d'inondation. 3 zones concernées, une partie de la Normandie, la vallée du Rhône et le sud-ouest de la France. C'est la fin d'une journée qui restera dans les livres d'histoire. Face à face à Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un aujourd'hui, une déclaration commune signée, pour autant pas de décision ferme sur la question de l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord. Et puis dans une demi-heure, le retour des Bleus, version 98 sur un terrain de foot, match de gala à la U Arena de Nanterre. Sur le terrain, l'équipe de France qui a remporté le mondial il y a 20 ans, coup d'envoi à 21h. Pour l'instant, il est 20h33. On retrouve Jean-Mathieu Pernin pour la suite des informés.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est un peu la tactique du 4-4-2 sans le 2. Voilà, j'essaie, je m'émets au mondial, hein, donc j'essaye qu'ils tentent ce soir. Et autour de la table, nous trouvons Aziz Sini, entrepreneur engagé, également Marion Mourgue du Figaro, Xavier Alberti, président de La Transition, et Jonathan Boucher-Petersen de Libération. Mais de quoi vont-ils bien pouvoir parler, puisqu'Elisabeth Borne, ministre des Transports, a appelé les syndicats impliqués dans la réforme de la SNCF à venir discuter dans son bureau vendredi. Alors elle a déjà précisé une chose, on ne va pas refaire la réforme. Bon, bah en gros, la ministre imagine un pot de fin de conflit hein, avec les meilleurs diapos de Philippe Martinez à la gare de Lyon ou un jonglage de fumigène de la part de Laurent Berger. Bref, un truc sympa, quoi. Mais que restera-t-il à négocier puisque le vote du texte définitif est prévu pour demain et mercredi? Alors, se dirige-t-on vraiment vers une fin de conflit? Les syndicats réfléchissent. Certains souhaiteraient continuer les mobilisations pendant l'été alors qu'une première brèche se dessine puisque la CFDT Cheminot réclame une trêve de la grève pendant la semaine du baccalauréat. Aujourd'hui, c'est le 29e jour de grève et on est loin du compte, selon le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.
C'est les cheminots qui vont décider, en fonction des résultats obtenus, la façon dont ils réagiront. Mais pour l'instant, je vous le dis solennellement, on est loin d'une sortie de grève.
Oui, mais... Il faut savoir le bout du tunnel,
Il faut du concret. Il y a des questions qui restent en suspens.
Voilà, Philippe Martinez ce matin sur BFM avec Jean-Jacques Bourdin. C'est vrai, Aziz Sini, les cheminots voulaient faire aujourd'hui, enfin les cheminots en grève, une journée de la colère cheminote. Alors le taux de grévistes est un peu remonté par rapport au 8 juin avec 17% de salariés en débrayage. Est-ce que, d'après vous, c'est possible de continuer ce mouvement aujourd'hui?
Je sais pas, je discute un petit peu de temps en temps avec les cheminots qui ne font pas grève puisqu'ils sont là et qu'on peut discuter avec eux. J'ai l'impression qu'il y a quand même un esprit qui s'essouffle. Il n'y a pas que les franciliens, les français qui sont un petit peu fatigués, qui d'ailleurs ont pris le pli et se sont organisés dans les entreprises, dans leur vie quotidienne. J'ai le sentiment que les cheminots aussi commencent à désespérer de cette lutte parce qu'ils y ont mis sûrement beaucoup de cœur, mais les résultats sont peu probants. Pour leur lutte, en tout cas à eux. Puis du côté du gouvernement, on a l'air de tenir bon. De toute façon, il y a un certain nombre de directives européennes qui les obligent à tenir bon aussi. Donc c'est plutôt dans le bon sens. On peut pas aller dans le sens de l'histoire, je crois.
Ouais, alors, Marion Mong, est-ce que le fait aussi que la CFDT demande depuis cet après-midi une trêve pendant les examens, c'est une première faille ou pas?
Oui, c'est un signal. Ils avaient bien compris que ça commençait à devenir quand même très impopulaire, que les lycées, les universités ne puissent pas travailler normalement du fait des grèves. Mais l'exécutif avait théorisé ce mouvement qui serait décroissant. Il savait qu'au début, ce serait très fort, qu'il y aurait une mobilisation massive des cheminots, et puis qu'après, ça allait décroître, que ça serait plus long à décroître qu'à augmenter. Et donc là, on est dans cette phase-là, d'autant plus que l'Assemblée, comme le Sénat, a voté le texte dans les mêmes termes, donc a priori, c'est quand même compliqué de revenir dessus.
C'est presque qu'ils ont voulu faire monter une pression très très forte en disant que la dette n'était pas sur la table. Enfin, il y a eu tout cette espèce de stratagème, alors tout le monde savait que la dette était in fine sur la table. Donc du coup, on a fait monter une espèce de grosse vague qui était très grosse. Donc là, on a un peu pris la pause sur le côté... quand même, moi je suis Macron, donc je tiens. Puis de fait, on a fini par dégainer la dette, donc ça a dégonflé. Puis après, on dira tiens, ça dégonfle, puis ça dégonfle, évidemment. Donc après, il y a une espèce de jeu de rôle qui a une mise en scène quand même de je tiens bon, qui était un petit peu stérile quand même. Du côté de Philippe Martinez, ils sont embêtés, tous ces syndicats et les éditions professionnelles en fin d'année. Il y a une vraie pression. Le mot résultat obtenu, enfin ça, il va le marteler, ils vont l'expliciter. On a obtenu. C'est pas ce qu'on a fait grève qu'on a obtenu. Et de fait, quand on voit la loi telle qu'elle est votée par rapport aux grandes lignes, parce que c'est ça qui a été un problème pendant très très longtemps. Les cheminots, ils sont d'abord mobilisés face au flou. Ils sont d'abord mobilisés parce qu'on leur a dit le statut, on n'en veut plus. Et pour le reste, là, aujourd'hui, effectivement, on voit qu'ils ont obtenu des choses. Est-ce que c'était déjà des choses que le gouvernement était prêt à lâcher? C'est probable. C'est forcément aller un peu plus loin parce que cette mobilisation, c'est ça qui est complexe. C'est que c'est une des plus importantes que la SNCF ait connue depuis vraiment longtemps en termes d'investissement pour les cheminots. Et c'est sûrement celle que les Français, d'une manière générale, ont le ressenti comme le moins violemment. Donc c'est un truc qui est très compliqué. Ils ont ce deux jours sur cinq, qui était une idée d'entretenir un conflit un peu long. Et de fait, il n'a pas été impactant. Et peut-être que c'est une leçon qu'il faudra que les syndicats tirent, peut-être pas. Enfin, c'est quelque chose qui est compliqué aujourd'hui. Comment on utilise la rue pour faire pression sur un gouvernement qui met en scène le fait qu'il tient face à la rue? C'est une équation compliquée.
C'est ça, Xavier Alberti aussi. Est-ce que le fait que la réforme ne s'applique pas tout de suite, mais en 2020, est-ce que ça a finalement aussi freiné la mobilisation, la prise de conscience, enfin voilà, que ça ne va pas être immédiat? Est-ce que ça a permis une absence de mobilisation?
D'abord, le fait de gérer le flux et pas le stock a été intelligent. C'est-à-dire le fait que la réforme s'en prenne non pas aux cheminots en activité, mais à ceux qui rentreront plus tard, c'est évidemment quelque chose qui décrispe énormément. Et à mon avis, c'est ça qui a surtout touché la mobilisation. Aujourd'hui, dans une situation finalement où le gouvernement sortira la tête haute puisqu'il dira on a tenu et on a mené notre réforme jusqu'au bout, il reste aux syndicats à essayer de trouver la porte de sortie la plus honorable. Faut pas oublier que derrière la loi, il va y avoir la négociation de la convention collective.
C'est ça,
Et la négociation de la convention collective, elle risque...
Il paraît que c'était plus le niveau il fallait négocier. Enfin, c'était toute la logique de la loi. C'est amusant d'ailleurs.
Je pense qu'elle revient à la branche. Elle peut permettre aux syndicats de sortir correctement, on va dire, de tout ceci. Et donc, je pense que si la mobilisation continue, c'est d'abord pour préparer la négociation de la convention.
Collective, Marion Morgue.
Mais il y aura aussi une leçon et une question à poser, c'est le poids des syndicats aujourd'hui dans l'expression des mobilisations et des revendications. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des colères, il y a des tensions dans la société, mais qu'elles ne passent plus ni par les partis politiques, ni par les syndicats, et par des mouvements qui sont spontanés, parfois très violent.
Ce qu'on appelle les fameux corps intermédiaires.
De Sarkozy à Macron, il y a eu une espèce de période où on les respectait même si on les entendait pas. Mais globalement, on passe son temps à les piétiner ou à expliquer que c'est des freins à la réforme.
Oui, mais qu'il y a aussi une volonté de s'exprimer autrement.
Et c'est ce que dit le patron de FO. Il dit attention à ce que ces mouvements ne se radicalisent pas ici et là.
Ils n'ont pas su se réformer non plus. Ils ne se sont pas transformés.
Oui, c'est aussi des catalyseurs. Il faut faire attention quand il n'y a plus personne, plus de corps intermédiaires. On est en direct avec le peuple. Ça fait mal parfois.
Tous ces corps ont besoin de se réformer, de se réorganiser. En politique, on a vu En Marche émerger d'une façon totalement imprévisible, et je pense que si les syndicats ne veulent pas voir et le MEDEF et la CPME, etc., etc., tous les syndicats sont concernés, c'est qu'il y a une nouvelle façon de militer, de penser le syndicalisme, et je pense que ces vieux partis doivent se reconstruire aussi.
Alors on va continuer en parler.
Ces vieux syndicats pardon. Voilà. Ouais, là-dessus.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Et ce soir encore, 18 départements restants en vigilance orange face aux pluies, aux orages et aux crues, de grosses inondations aux Mureaux en Ile-de-France. En Seine-et-Marne, l'autoroute A104 reste coupée après une inondation à hauteur de Saint-Thibault-les-Vignes. La fin de 4 heures de prise d'otage pour 3 personnes retenues par un forcené dans le 10e arrondissement de Paris. Peu avant 20h, les forces de l'ordre ont donné l'assaut. L'homme a été interpellé dans cette entreprise de communication de la rue des Petites Écuries et les motivations de ce forcené restent encore assez floues. Michel Néret, condamné en appel pour corruption, 2 ans et demi de prison ferme et du sursis pour l'ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon. Il va pouvoir demander un aménagement de peine. Il est reconnu coupable d'avoir fourni des informations confidentielles à des membres du milieu en échange de cadeaux, entre autres. Pour la Corée du Sud, c'est un événement historique, le début d'une nouvelle histoire pour la Chine. Depuis ce matin et la poignée de main entre Donald Trump et Kim Jong-un, depuis Singapour, leur déclaration commune appelle la Corée du Nord, Pyongyang, à respecter ses obligations internationales concernant ses programmes nucléaires et balistiques. Et puis dans 20 minutes, pour les Bleus 98, ce sera un peu retour vers le futur avec un match de foot de gala à la U Arena de Nanterre, 20 ans après la Coupe du Monde et la victoire. Cette sélection des Bleus va rencontrer des joueurs internationaux.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Nous parlons de la SNCF. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé hein, quand même de la SNCF. Mais bon, là, c'est vrai que demain et jeudi, l'Assemblée nationale se penche sur le texte définitif. Mais malgré ça, eh bien, la plupart des syndicats appellent à continuer le mouvement. Alors, on le sait aussi, Marion Maug, une chose, c'est que pour Emmanuel Macron, la SNCF, c'était, on se souvient, c'était réputé irréformable. Hein, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'avec ça, quelque part, il gagne aussi ses galons de réformateur et que derrière, il se dit, c'est bon, voilà, tout est possible à réformer puisque j'ai fait la SNCF.
Oui, chaque président a besoin de sa manifestation, qu'elle soit un peu grosse et importante, qu'elle traîne pour montrer que justement, on arrive à passer les réformes. Et c'est aussi dit au sein de l'exécutif, c'est qu'à partir du moment où la réforme de la SNCF sera définitivement enclenché, eh bien, il y a d'autres textes qui vont arriver.
Les retraites.
Les retraites notamment. Oui. Et là aussi, ça s'annonce épineux. Mais oui, c'est une sorte de jeu de rôle de part et d'autre. Quoi.
Oui, c'est ça aussi, finalement, aussi, Jonathan Boucher-Petersen, il a gagné ses galons, Emmanuel Macron, sur la SNCF.
Oui, il faudra voir auprès de qui. Hein,
c'est... Oui, bah oui, bien sûr. Oui.
C'est là, il a gagné ses galons, ou alors il a rendu tout le monde méfiant, ou alors beaucoup de gens se disent, voilà, on s'est fait avoir là, on se fera avoir sur les retraites. Non, évidemment que pour l'instant, ça passe. Enfin, on s'en rend bien compte, hein, sur plein de réformes.
Bien sûr.
Ça passe. Le tissu social, le tissu des corps intermédiaires, tout ça est quand même globalement en vrac. Il y a une majorité qui est très imposante, très large, qui plutôt tendance à voter. Ça avance, hein, c'est sûr. Ça, y a pas de... Après, c'est simplement que sur ces sujets, on ne peut pas dire que tout était sur la table. Quoi. Donc il ne faut pas s'étonner si parfois, une fois qu'on sort un tout petit peu les cartes... Ça grince.
C'est le souci. Xavier Alberti, c'est vrai que vous en parliez à l'instant, la prochaine grande réforme, ça, c'est des retraites en 2019. Alors là... On sent que ça va plus compliqué parce que le gouvernement prend beaucoup de temps. C'est bizarre. Normalement, là, il accélère, on nous fait passer ça. Et là, d'un coup, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Pourquoi cette réforme prend-elle, pourquoi faut-il prendre autant de temps pour cette réforme?
Je ne sais pas. Ah,
non, mais on sent bien que c'est la plus épineuse.
On peut être informé, pas tout ça.
Bien sûr, on sent bien que c'est la plus épineuse, la plus délicate.
La mère de toutes les réformes, c'est les retraites. Mais il y en a une autre dont on parle pas, c'est la fonction publique. Oui, à mon avis, c'est les deux qui peuvent.
Vous savez, si on en parle un petit peu, je vous le dis,
un petit peu. Et les questions bioéthiques aussi cliveront pas mal.
Alors on va commencer dans l'ordre juste sur les retraites. On sent bien il y a eu un site de lancé pour avoir les avis de chacun. On sent bien que chacun en discute dans son coin. C'est une réforme qui est difficile à mettre en place.
Je pense que c'est la plus difficile. En tout cas c'est celle qui va demander le plus de courage dès lors qu'on va toucher à l'âge. Parce que il y a effectivement le fait de toucher au statut particulier, au statut spécial, mais je pense que c'est pas ça la clé. La clé, c'est vraiment le sujet de l'âge et de l'âge général, et savoir si on va toucher à un moment donné.
Jean-Paul Delevoye était très clair. Hein.
Au fait de reculer l'âge de la retraite et d'acter le fait que cette société elle a évolué et que on doit passer par de nouvelles méthodes de financement et de nouvelles longévités de travail.
Ouais, sinon, on sent déjà que c'est une méthode, c'est une réforme qui prend du temps et qui est surtout très délicate, notamment par rapport à l'âge. Donc en effet, Jean-Paul Delevoye lui a dit que ça resterait à 62. On ne sait pas encore si on peut la reculer. On se souvient d'Alain Juppé en 95. Hein, il avait fait les deux en même temps. Hein, il avait fait SNCF et retraite. Mais c'est là où ça va devenir compliqué.
Je pense que socialement parlant, on marche sur des œufs avec cette réforme. Il faut aussi se rappeler qu'on n'est plus dans le même contexte. Macron et SNCF, c'est le début de mandat, c'est un peu euphorique. Les étoiles et les planètes sont alignées, on marche sur l'eau, etc., etc. Là, on va rentrer dans une deuxième phase qui devrait être, selon les spécialistes, et je n'en suis pas informé sur ce sujet, c'est que on va rentrer peut-être dans un deuxième phase de mandat qui devrait être un peu plus social, puisqu'on a beaucoup critiqué le côté libéral.
Alors,
comment faire pour résoudre cette équation où il faut être un peu plus social et en même temps expliquer aux gens qu'ils vont devoir travailler un petit peu plus longtemps? Bon courage aux mathématiciens de l'Élysée. Hein.
Oui, c'est ça, j'ai entendu chez personne. L'équation qui se profile pour le gouvernement.
Alors pour une fois, autant sur beaucoup de réformes, on a vraiment l'impression que c'est on fait tout ce que les autres n'ont pas fait en expliquant que c'est nouveau. Oui. Là, pour beaucoup de sujets, c'est quand même ça. Là, pour le coup, toutes les autres réformes des retraites, c'était des réformes très... on va combattre le déficit des retraites en tant que tel. Là, c'est une réforme systémique. Pour une fois, il y a une vision, en tout cas l'idée qu'on transforme le modèle. De fait, c'est quand même, on sent que c'est sensible parce qu'on nomme un médiateur avant même d'avoir lancé le truc. Donc on prend en plus Jean-Paul Delevoye. C'est-à-dire une figure, c'est un peu le Jacques Toubon du social, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui est, global principe républicain, l'ancien patron du CESE, quelqu'un qui a beaucoup manœuvré quand il était ministre de la fonction publique, enfin, voilà, qui connaît bien ces sujets-là.
Il était depuis longtemps là puisqu'il voulait, à un moment, Jacques Chirac voulait qu'il dirige un parti qui s'appelait le RPR, hein,
C'est un homme de consensus, de dialogue, qui a une certaine rondeur. Bon. Donc on sent que le sujet est complexe. Effectivement, on lance une énorme consultation. Si on se fie aux consultations dont les syndicats ont pu faire l'objet, pas toujours très productif. Donc l'idée, c'est quand même d'habiller, de faire monter un débat, de canaliser. Après, l'objectif in fine, effectivement, donc Delevoye a mis le cliquet. Donc en 62, a priori, on n'y touche pas. Mais il se trouve que le système par points, ou en tout cas tel qu'il existe par exemple en Suède, c'est très technique.
Mais
la dynamique du modèle par points, c'est-à-dire qu'on touche pas à l'âge politiquement, mais de fait, comme c'est par le libre arbitre des gens, là, est repoussé. Donc politiquement, ça n'a pas beaucoup de coût parce qu'on peut continuer à dire nous on n'y touche pas, mais quand on se rend compte, et le système, pareil, c'est comme la réforme de la SNCF, c'est 2025, l'entrée en vigueur du système. Donc ce sera pour le quatrième, enfin je n'ai pas compté quel mandat de Macron ça fera.
On ne sait plus maintenant.
Voilà, il y a un truc, donc c'est-à-dire on peut, si on l'emballe bien le truc, s'il y a une bonne pédagogie, si effectivement le débat n'est pas complètement vicié, et surtout si on ne parle pas que des régimes spéciaux, peut-être qu'on peut faire avancer les choses.
Eh bien écoutez, en tout cas, on va bien voir ça. C'est vrai que c'est la prochaine grande étape de ce gouvernement, et en effet il y en a d'autres, donc nous aurons l'occasion d'en reparler bien sûr aux informés de France Info. Allez, on va parler un petit peu de politique, puisque vous savez, tout avait pourtant bien commencé. En septembre dernier, on pouvait lire cette petite annonce dans le Chasseur français: sarkozyste bien de sa personne, amateur de parc à rouge, recherche libéral jupéiste pour tandem fougueux. Et en lisant cette annonce, on comprend mieux que Virginie Calmels n'ait pas résisté à l'appel de Laurent Wauquiez, un duo alliant deux facettes de la droite, idéal pour prendre la tête du parti. Et pourtant, 6 mois plus tard, les deux ne semblent pas vraiment s'être retrouvés. Depuis la semaine dernière, c'est même la crise, puisque le numéro 2 du parti a critiqué le tract des Républicains pour que la France reste la France. Depuis, Calmels s'est fait souffler dans les bronches, semble rentrer dans le rang, mais la tension demeure, notamment sur le projet européen que Virginie Calmels et Laurent Wauquiez ne partageraient pas. Mais c'est au conditionnel. De toute façon, il faut arrêter de critiquer Laurent Wauquiez, on ne peut plus rien dire, selon le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti.
Parce que c'est Laurent Wauquiez, ceux qui sont dans une opposition stupide à son égard, systématique, sans réfléchir, y voient une résurgence d'extrême droite. Je dis que c'est le degré zéro de la pensée politique. Ça veut dire que ceux qui
ont dit c'est un torchon populiste, dit là, l'autre Franck Riester, c'est du pétain pur jus. De Gaulle, pétain.
C'est ahurissant. Ça veut dire que ceux qui contestent cette phrase, ils veulent que la France ne soit plus la France.
Voilà, Éric Ciotti.
Toujours de très haut niveau.
Ce matin, Jean-Pierre Cavage sur CNews. Alors, juste une chose. Marion Maure, je sais que vous suivez donc la droite pour le Figaro. Et ce matin, il y a eu une réunion chez les LR où il y avait Virginie Calmels et Laurent Wauquiez. Comment ça s'est passé?
Donc, c'est la réunion de l'équipe dirigeante qui, pour le coup, s'était pas réunie depuis plusieurs semaines. Donc, chacun attendait de savoir comment ça se passerait. Ça a été très froid et plusieurs membres de l'équipe dirigeante ont clairement dit à Virginie Calmels qu'elle avait été trop loin. Donc il y a Laurent Wauquiez, mais il y a aussi Éric Ciotti et Fabien Di Filippo, Virginie Duby-Muller. Donc ça a été, elle s'en est pris
plein la figure.
Et en fait, les élus lui ont reproché d'avoir étalé les divisions publiquement et de l'avoir fait deux fois.
C'était notamment sur France Inter.
Et hier sur Public Sénat, en disant on ne peut pas réalimenter les divisions alors qu'on a souffert de ça. Et c'est vrai qu'on se souvient de divisions récurrentes. Donc voilà. Et donc il reste sur cette ambiance-là et ça va être compliqué pour la suite.
Ah oui. Et d'ailleurs, on va continuer à en parler dans un instant, de savoir comment ça se passe chez les Républicains entre Virginie et Laurent. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Avec la fin de la prise d'otage en plein cœur de Paris dans le 10e arrondissement, peu avant 20h, le preneur d'otage, un homme de 26 ans, a depuis été placé en garde à vue. Une enquête est ouverte, notamment pour enlèvement et séquestration. Les trois otages sont sains et saufs. Trois personnes qui avaient été donc retenues dans cette société de communication de la rue des petites écuries. La France salue une première étape après le sommet Trump-Kim Jong-un. Depuis Singapour, les États-Unis et la Corée du Nord sont arrivés ce matin à une déclaration commune. Le texte appelle Pyongyang à respecter ses obligations internationales concernant ses programmes nucléaires et balistiques. La dépakine désormais interdite aux femmes en âge de procréer. C'est ce médicament de Sanofi censé lutter contre l'épilepsie et les troubles bipolaires. cancer. Il serait lié à des milliers de malformations congénitales. Une annonce ce soir de l'Agence du médicament après une décision de l'Union européenne. La CFDT Cheminots appelle à suspendre la grève sur les TER et RER pour faciliter les épreuves du bac les 18 et 20 juin. En attendant, demain, ce sera le 30e jour de conflit à la SNCF. La direction table entre autres sur 3 Transiliens sur 5, un TER sur 2 et 2 TGV sur 3. Et puis M6 porte plainte après une manifestation de cheminots ce matin. Une centaine protestait après la diffusion du magazine Capital dimanche dernier sur la réforme de la SNCF. Des manifestants ont entre autres brisé une porte en tentant de rentrer dans les locaux de la chaîne à Neuilly.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de cette brouille au sein des Républicains entre Virginie Calmels, qui est la numéro 2, et Laurent Wauquiez, qui est le numéro 1. Il y a en cause ce tract, vous savez, dont on a déjà parlé aux informés, pour que la France reste la France, diffusé à 1 million d'exemplaires le week-end dernier par les Républicains. Mais en fait, c'est plus qu'un problème de personne, c'est un problème véritablement de ligne. Aziz Seni, on sent bien que cet attelage a été fait pour prendre la tête des Républicains, mais là, on voit qu'il y a, notamment sur l'Europe, puisque c'est là-dessus que Virginie Calmels se positionne, on voit bien qu'il y a deux lignes, véritablement, et presque irréconciliables aujourd'hui au sein des Républicains. Enfin, qui est là depuis longtemps.
À mon sens, ça ne fait que traduire la division qui était déjà là entre le courant juppéiste et puis le courant un peu plus conservateur à droite, qui se fera tôt ou tard d'ailleurs croquer par une Marion Maréchal Le Pen qui reviendra mettre tout le monde d'accord sur le sujet. Moi, j'ai le sentiment que donner de la façade comme ça, quand on est dans une réunion politique et qu'on est obligé de taper du poing sur la table pour dire aux gens, vous n'avez pas le droit de dire et de donner en public une image de division, et on doit cacher nos divisions, c'est juste de l'illusion, parce que la division, elle existe déjà auprès des électeurs, auprès de ceux qui se sentent appartenir à ces différents courants et qui ne se retrouvent pas dans un tract et dans une vision pour l'Europe. Et donc on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Oui. Qu'est-ce qu'on a encore à faire ensemble? Je crois que cette famille est en train d'exploser de l'intérieur, et elle contribue à la réorganisation du paysage politique, me semble-t-il, qui est aussi valable pour la gauche, et on l'a vu à gauche aussi.
Juste une précision, Virginie Calmels ne conteste pas le tract en lui-même, ni le slogan, ni le fait qu'il y ait un drapeau. Elle conteste les propositions économiques.
Oui. Donc c'est le libéralisme, la vraie différence. Voilà. C'est Europe et libéralisme.
C'est ça, mais elle conteste aussi le fait, parce que on l'imaginait peut-être tête de liste pour les européennes, et elle se dit, mais oui, mais c'est quoi le projet de
Laurent Wauquiez? La question n'a pas été tranchée, donc on sent qu'elle avance ses pions pour l'être. Mais
elle veut une campagne qui soit un peu longue. Elle dit, il y a un contexte qui est très eurosceptique. Moi, je veux porter des convictions plus européennes que la moyenne.
Libérale, en fait.
C'est un vrai sujet. Donc on a besoin de partir d'un peu loin. Laurent Wauquiez, il dit, moi, j'ai pas envie d'avoir une tête de liste qui prend la lumière à côté de moi. Je suis pas encore installé. Je suis au tréfonds des sondages. Personne ne m'aime. Entre Di Filippo et Éric Ciotti, c'est pas avec ça qu'on va conquérir quoi que ce soit. Je rappelle qu'il est à la tête du premier parti d'opposition en termes de députés.
Bien sûr.
LR, a priori, avait pas été complètement explosé par la présidence, par Emmanuel Macron. Hein. C'était les affaires et François Fillon qui avaient. On se rend compte qu'après avoir bien bousculé la gauche à la présidentielle, il est en train de couper globalement l'herbe sous le pied de la droite. Il est totalement asphyxié. Du coup, il est un peu susceptible. Il est surtout inaudible.
Xavier Alberti.
Oui, on se demande ce que Virginie Calmels est allée faire dans cette galère, en fait, je trouve. Mais elle ne pèse pas grand-chose politiquement. La réalité, c'est que ça ne se joue pas avec Virginie Calmels. Ça se joue aujourd'hui entre 3 patrons de région. Les régions étant devenues des sortes d'incubateurs aux candidats à la présidentielle.
C'est quoi ces 3 régions?
Entre Valérie Pécresse.
Donc Île-de-France.
Exactement. Xavier Bertrand. Dans le Nord, et Wauquiez. Le vrai sujet va jouer entre la droite identitaire de Wauquiez. Il a posé clairement le fait maintenant qu'il était à la tête d'une droite identitaire, une droite plus libérale de Pécresse et une droite sociale de Xavier Bertrand. On retrouve d'ailleurs les nuances de gris de la droite bonapartiste et
orléaniste
qui se tape dessus. Et le vrai jeu qui est déjà en place aujourd'hui, c'est préparer la pré-présidentielle de 2022, et c'est entre ces 3-là que ça se jouera.
Marion Maug, je crois que c'est dans le Figaro aujourd'hui, vous voyez que Nicolas Sarkozy, qui n'est jamais très loin, dans l'opinion, précisait que il souhaitait, lui, que Laurent Wauquiez aille en tant que tête de liste aux européennes.
Il le convoque, d'ailleurs.
Ça serait un bon pari pour lui ou pas?
Alors, il y a plusieurs éléments. C'est que Nicolas Sarkozy n'a pas digéré l'épisode de l'EM Lyon. Ouais. Et donc,
Où Laurent Wauquiez, en effet, avait insulté tout le monde.
Ouais, il avait dit que Nicolas Sarkozy avait mis ses ministres sur écoute, quand même.
Donc, là aussi, il y a un froid. Ensuite, la conception de Nicolas Sarkozy, c'est de dire, si Laurent Wauquiez est un chef et qu'il est chef de parti, il faut aller aux européennes et il doit prendre la tête de liste. Et Nicolas Sarkozy donne l'exemple de ce qu'il a fait en 99, même si les résultats ont été mauvais.
Il a perdu, en effet.
Il a perdu, mais il a endossé la responsabilité. Et Nicolas Sarkozy dit, voilà, on ne peut pas faire autrement, il faut y aller, et tant pis s'il perd, mais c'est la seule manière d'incarner le leadership.
Bon, en fait, on ne s'en débarrasse jamais des anciens présidents.
Voilà, c'est ça.
Non, mais il a convoqué, hein,
comme des gauchistes.
Ouais, non, non, attention, ce n'est pas une convocation. Il se voit régulièrement.
Oui, mais là, il lui a dit, j'ai besoin de te voir un peu vite.
Alors, demain, ça se passe à Miroménil. Il est vrai que la dernière fois, c'était dans un café, dans le 6e arrondissement. Mais il se voit régulièrement.
Quand on voit aujourd'hui les LR qui sont en pleine crise identitaire, vous l'avez dit aujourd'hui, est-ce que c'est possible encore de cohabiter? On voit sur l'Europe à quel point c'est important aujourd'hui. On a parlé au début avec les migrants. On voit très bien qu'il y a des différences notables dans ce parti de cohabiter aujourd'hui pour vous.
Moi, je pense que ça va être extrêmement compliqué pour ce parti de continuer à faire vivre des courants aussi en opposition, des personnalités aussi différentes. Le fait aussi important quand même, il ne faut pas oublier les électeurs et leur envie de faire de la politique autrement. Ils l'ont déjà dit une fois, ils vont le redire une deuxième fois, probablement aux européennes. Et certains partis, dont les LR, me semble-t-il, n'ont toujours pas tenu compte du message, c'est cette volonté de faire autrement.
Xavier Bertrand, il a compris, moi je suis assez d'accord sur ce rendez-vous. Ça se joue que là, en gros, le parti est un boulet, enfin, on s'en rend bien compte, sinon c'est pas Christophe Castaner qui l'aurait en marche, et c'est pas... Bon, voilà. Globalement... Non, mais formellement, oui, ça se joue clairement dans ce triptyque-là, quoi. Après, c'est quand même compatible, Pécresse-Bertrand, s'il faut se prendre la main...
Et puis chacun a son mouvement, quand même. Ils n'ont pas forcément les partis, mais ils ont des structures parallèles.
Il a un vrai laboratoire, Xavier Bertrand, pour le coup, qui a l'air d'être plus vertueux que celui de Valérie Pécresse.
Bah écoutez, en tout cas, on verra ce qu'il en est chez les Républicains. Il y aura un débat pour définir une ligne européenne. Ça sera le 30 juin prochain. Voilà, on imagine l'ambiance sur place. En tout cas, merci beaucoup Xavier Alberti d'être passé ce soir.
Merci
Aziz Seni. La une du Figaro, Marion Morgue demain.
Eh bien, on revient sur le sommet de Singapour et les questions que ça pose.
Et la une de Libération, Jonathan Mouché-Pedersen.
Alors, je ne sais pas exactement. Je sais qu'on revient. On revient évidemment largement en événement sur le sommet de Singapour. On revient aussi très largement en 4 pages sur l'Aquarius.
Aquarius, bien sûr.